Nous avons Marie-Pierre Preud'homme en ligne qui vient régulièrement s'asseoir à votre place pour évoquer des choses sur l'hypnose, notamment sur la relation à la nourriture. Et je pense qu'en effet, qu'elle a des choses à dire. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Sylvie, bonjour Georges. Oui. Quel sujet hyper, hyper intéressant. Il y a énormément à partager. Hein.
Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et la façon dont la sexualité est présentée à l'enfant, l'impact tout au long de sa vie, vous en êtes consciente évidemment, et fera qu'il vivra une expérience sexuelle comme traumatisante ou amusante. Donc ça aussi, c'est extrêmement important de le dire.
Ou réussi.
Oui, tout à fait. Là, je rejoins vraiment Georges dans l'idée de ne pas culpabiliser, d'amener une certaine normalité. On dit, mais c'est normal que tu aies envie d'explorer, c'est normal que tu sois curieux. Tout ce qui est déculpabilisant va vraiment pouvoir aider l'enfant à se construire sereinement dans sa sexualité.
Mmh. Vous faites le lien, vous, et ça l'interpelle Georges, et il aimerait en savoir un petit peu plus, entre le vécu de la sexualité donc de l'enfant et sa relation à la nourriture, la relation que nous développons à la nourriture.
Mais expliquez-nous ça un petit peu.
Exactement. Alors, donc, moi, je travaille beaucoup les troubles alimentaires.
Et les addictions.
Les addictions, les compulsions. Et donc, ce que j'ai observé, et que d'autres ont observé aussi, c'est que quand la sexualité est réprimée, que ce soit en termes de valeurs ou au nom d'une religion, de codes familiaux ou sociaux, quand la sexualité est étiquetée comme mal, on ne peut pas, ce n'est pas normal de ressentir ça, la masturbation, on ne peut pas. Dès qu'il y a cette connotation qui est de l'interdit et du c'est mal, mais les pulsions sexuelles, elles sont connotées comme étant comme n'étant pas acceptable, et donc le fait de ne pas pouvoir les accepter, le fait de les dénier, de les renflouer, eh bien à un moment donné ou à un autre, la nourriture va avoir sa fonction, et plutôt même ses fonctions.
Et vous pensez qu'il y a une sorte de déplacement des pulsions sexuelles vers les pulsions alimentaires?
Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a « je sens en moi cette pulsion sexuelle » et voilà que peut-être en tant que fille ou jeune fille, oulala, je suis attirée par une jeune fille. Ça, alors qu'on m'a appris que ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument inconcevable. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, je le ravale quelque part. Et donc, la nourriture, elle va servir à quelque part estomper et ne pas sentir cette pulsion. Elle va avoir aussi une fonction de donner un autre plaisir que celui de la sexualité. Et puis, s'il y a des hypercompensations alimentaires, le corps, lui, va se transformer. Et si mon corps se transforme, ça va régler certains problèmes au niveau de mon ressenti de la sexualité. Et si mon corps se déforme, je suis beaucoup moins attirant, beaucoup moins attirante. Et ça, ça va régler beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects. Et les liens entre la façon de vivre sa sexualité et la façon dont on l'a vécu petit, dont on l'a intégré, intériorisé, et la façon dont on vit sa relation à la nourriture, il y en a vraiment énormément.
C'est intéressant.
Ce constat que vous faites, qui est très intéressant effectivement, est-ce que vous le mettez en application dans un aspect thérapeutique ou de conseil que vous avez rencontré dans votre vie professionnelle peut-être?
Exactement. Donc ça, il y a d'abord une partie d'échange pour une invitation à la prise de conscience, en toute bienveillance, parce que ce sont des sujets qui sont très très délicats, qui peuvent venir confronter la personne à des valeurs familiales, à des choses qui ont été véhiculées dans la famille, donc c'est très 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 touchy. Donc il y a une prise de conscience qui est faite plus vraiment dans le verbal et expliquer des notions comme je viens de le faire ici. Et puis après, on va travailler en hypnose pour que on puisse modifier certaines représentations, en tout cas l'impact de certaines représentations sur des conditionnements comportementaux.
Mais une question quand même qui est cruciale, comment arrivez-vous à suggérer un travail thérapeutique par l'hypnose par exemple à des parents qui sont venus voir, ou des parents, oui, j'imagine que ça se passe comme ça, qui sont venus consulter parce qu'ils ont constaté que leurs filles, souvent c'est les filles, mais les garçons aussi, ont des addictions alimentaires, des tendances à la boulimie.
La demande, elle émane davantage de la personne qui est en souffrance au niveau alimentaire.
Vous situez ça à quel âge environ ?
Alors, ça peut commencer vraiment très très tôt, hein, des troubles alimentaires.
Les adolescents, évidemment, quand même.
Oui, adolescents et même préadolescents, justement au moment où le corps se transforme et que les hormones travaillent et qu'il y a des sensations, il y a des pulsions, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et on découvre des choses. Et la façon dont c'est abordé dans la famille, si c'est accueilli, si c'est normal, si c'est invitant à l'expression, ou si c'est réprimé, et ça va changer toute la donne.
Eh bien voilà, merci Marie-Pierre en tout cas. Georges, vous avez bien fait de venir par rapport à ça.
Oui, c'est très intéressant. La difficulté que vous devez avoir, c'est d'avoir ce discours-là envers les parents.
Mais oui.
Ils ne sont pas nécessairement, donc ça dépend un petit peu de l'âge, hein, mais les parents ne sont pas nécessairement impliqués. Généralement, les dégâts, si on peut dire, ils ont eu lieu plus tôt. Enfin, les dégâts, vraiment sans jugement. Hein. On fait ce qu'on peut. Comme vous l'avez dit, Sylvie, on se dit on veut être ouvert, on veut le meilleur pour ses enfants. Et puis c'est dans la pratique, c'est pas vraiment évident.
Ben merci Marie-Pierre, merci. De toute façon, on garde contact pour vous inviter à nouveau à vous exprimer par rapport à d'autres sujets que nous aborderons.